Grand Angle sur Radio Orient.
Bonjour, le Grand Angle Hebdo sur Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne. Au menu de cette émission, Liban-Syrie, une normalisation des relations avec Israël reste-t-elle un sujet tabou? Nous écouterons l'ancien ministre de l'économie au Liban, Alain Hakim. Regard également dans votre émission sur la surpopulation carcérale. Nous écouterons le cri d'alarme de Dominique Simoneau, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Un journaliste français spécialiste de football, Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie. Reporters sans frontières et son employeur, le groupe Sopress, dénoncent une condamnation injuste. Dans votre Grand Angle Hebdo, la directrice éditoriale de RSF. Il a fait chaud, très chaud, cette semaine en France. Vous entendrez le médecin qui a été le lanceur d'alerte lors de la canicule de l'été 2003, le médecin urgentiste Patrick Peloux. Enfin, les vacances ont commencé vendredi soir dernier. Pour les élèves, un enfant sur trois ne part pas en vacances l'été. C'est une vraie injustice, nous dira le directeur général du Secours populaire français, Thierry Robert. Israël se dit intéressé par une normalisation de ses relations avec la Syrie et le Liban dans le cadre des accords d'Abraham. C'est ce qu'a affirmé le ministre israélien des Affaires étrangères, parrainé par Donald Trump lors de son premier mandat à la Maison-Blanche. Les accords d'Abraham en 2020 ont vu Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan établir des liens formels avec Israël. Israël et le Liban sont toujours officiellement en état de guerre. Mais aujourd'hui, la question de la normalisation des relations entre les deux pays reste-t-elle un sujet tabou au Liban? L'ancien ministre de l'économie au Liban, Alain Hakim.
Aujourd'hui, il faut dire qu'au bout de 50 ans de débâcle total et de mort et de destruction et d'instabilité au niveau d'un pays et de la perte de la jeunesse libanaise vers l'extérieur à travers des expatriés et même des émigrés, aujourd'hui, le Liban doit repenser la chose d'une manière beaucoup plus ouverte et consciencieuse à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, la normalisation n'est pas un but dans son ensemble. La normalisation devra être un processus auquel on va aboutir à travers, bien sûr, une approche beaucoup plus ouverte à ce niveau, par en premier lieu éliminer ce sujet comme étant un tabou, parce qu'il n'en est pas. Je rappelle ici qu'en 2002, c'est-à-dire il y a plus ou moins 23 ans, à Beyrouth même, lors du sommet arabe, la décision avait été d'aller vers la paix dans la région à travers la reconnaissance de deux États. Donc dans ce cadre, bien entendu, et aujourd'hui avec les modifications qui ont eu lieu de la région et bien sûr au niveau mondial, il est bien entendu normal que le Liban rejoint le groupe des États arabes modérés qui sont en train de se diriger vers ceci.
Est-ce que l'affaiblissement du Hezbollah permet justement de mettre ce sujet sur la table?
Je vais y revenir, simplement pour dire que la paix, en fait, n'a jamais été une perte dans son ensemble. La paix en elle-même est une décision de force qui permet donc d'aboutir à un point de vue souverainiste et bien sûr d'un point de vue aussi au niveau national. En prenant en compte, bien entendu, que ce que vous avez dit aujourd'hui, vu au niveau régional l'affaiblissement de Hezbollah et bien sûr l'affaiblissement de l'ingérence iranienne au niveau du Liban a complètement diminué, et j'espère qu'elle va disparaître bientôt, donc permet aussi une ouverture du pays vers la région et vers son environnement.
Alain Hakim, ancien ministre libanais de l'économie. Gros plan à présent sur la surpopulation carcérale en France. La France compte plus de 84 000 détenus pour moins de 63 000 places. 27 organisations demandent une loi pour lutter contre la surpopulation carcérale. Le groupe de travail constitué de ces associations a soumis mercredi dernier aux parlementaires plusieurs esquisses d'outils comme un meilleur accompagnement de réinsertion des détenus ou le développement des peines alternatives à l'incarcération. Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Moi, c'est un groupe de travail que j'ai réuni autour du contrôle général des lieux de privation de liberté depuis 2022 et c'est toute la chaîne pénale. C'est les syndicats, les organisations, les syndicats pénitentiaires, d'avocats, de magistrats, de médecins, des associations qui travaillent pour et avec les prisons. Ça fait donc longtemps qu'on se réunit, qu'on se connaît, qu'on discute. On l'a fait très discrètement. Vous voyez, j'avais prévenu personne. J'ai dit, il n'y aura jamais de journaliste. Pourtant, je suis une ancienne journaliste, mais j'ai dit, je ne veux pas qu'il y ait de journaliste parce que je veux que la parole soit la plus libre possible. Et on en est arrivé à se dire que malgré toutes nos différences, toutes nos divergences, il y avait quelque chose sur lequel on était d'accord. Ça ne peut pas durer. La surpopulation carcérale, ça rend innommable le travail des surveillants et innommable la vie des détenus.
Et il y a plusieurs solutions, plusieurs pistes. Hein. Certains prônent une construction de prison, plus de prison. D'autres proposent des alternatives.
Alors nous, on est beaucoup sur les alternatives, mais surtout, on est pour que là, il y ait des sorties organisées, comme du temps du Covid, sous surveillance et sous contrôle des services pénitentiaires, un mois ou deux avant la fin de la peine.
Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Un journaliste français est en prison en Algérie. Le tribunal de Tizi Ouzou a condamné dimanche dernier le journaliste spécialiste de football, Christophe Glaise, à 7 années de prison ferme avec mandat de dépôt. Christophe Glaise a été arrêté avant d'être retenu sous contrôle judiciaire depuis le 28 mai 2024. C'est Reporters sans frontières et son employeur, le groupe Sopress, qui ont annoncé cette condamnation. Ils dénoncent une sanction injuste. Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières.
Christophe Glaise est un journaliste français, un journaliste sportif, hein, qui travaille depuis plus de 15 ans sur le sport, sur le football notamment, et donc qui travaille par exemple pour le groupe Sopress, donc pour SoFoot et Society. Et donc lui, ce qui l'intéresse en effet, c'est le football, et c'est pour ça qu'il s'est rendu en Algérie, c'est pour enquêter, en tout cas faire un reportage sur les heures de gloire de la jeunesse sportive de Kabylie, donc qui est un club de football, et puis aussi pour assister aux commémorations de la mort du footballeur camerounais Albert Ebossé. Donc on est vraiment sur des sujets purement sportifs. C'est pour cette raison qu'il était en Algérie depuis au mois de mai l'année dernière, et il a été arrêté. Donc on lui reproche comme charge apologie du terrorisme et possession de publication dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Donc ce qui lui est reproché in fine, c'est d'être entré en contact avec le MAC, donc le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, groupe pour lequel Christophe Glaise était rentré en contact avant que le groupe soit déclaré comme organisation terroriste par l'Algérie, et là, qu'il a contacté dans le cadre de son travail journalistique purement et simplement.
Parce que ce groupe a des liens avec la jeunesse sportive de Kabylie.
C'est cela, et c'est la raison pour laquelle, comme tout journaliste, il a fait son travail de journaliste et rentré en contact pour pouvoir préparer ce reportage sur ce club de football dans le cadre de son activité journalistique purement et simplement, dans le cadre d'un travail intègre en ce sens. Et donc le dossier concernant Christophe Glaise et les charges qui lui sont du coup opposées sont complètement infondées, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on appelle à une mobilisation forte pour appeler à sa libération.
Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Il a fait chaud, très chaud, cette semaine en France. Une large partie du pays a vécu une énième canicule. Le docteur Patrick Peloux, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France, a été le lanceur d'alerte lors de la canicule de l'été 2003. Le nombre de décès de personnes âgées de plus de 85 ans avait fait un bond de 105% entre le 4 et le 18 août. L'État a-t-il tiré les leçons de ce drame? Nous lui avons posé la question, le docteur Patrick Peloux.
Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, évidemment, au cours des années, s'est aperçu qu'il fallait avoir une politique de prévention. Donc, cette politique de prévention est quand même relativement opérationnelle, en ce sens que, les messages pour dire aux gens de boire de l'eau, d'être de se mettre à l'abri alors qu'il fait très très chaud. Ça a été un peu plus compliqué de faire comprendre qu'il fallait limiter les heures de travail, mais bon, on a fini par y arriver. De dire aux sportifs de ne pas faire de sport en pleine chaleur. Bon, les messages, bon an mal an, sont passés. Le problème, c'est que l'État, en fait, a continué à casser les services publics. Hein. En 20 ans, ça a été catastrophique. On est à plus de 73 000 lits qui ont été fermés dans les hôpitaux depuis 2003.
Vous nous dites qu'aujourd'hui, l'État est moins prêt à faire face à une nouvelle canicule qu'en 2003, que les services hospitaliers ont moins de moyens qu'en 2003 pour faire face à cela ?
En gros, oui.
Le docteur Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Les vacances ont commencé pour les élèves en France. Certains enfants sont contraints de rester chez eux cet été, faute de moyens financiers. Le Secours populaire français rappelle le droit aux vacances pour tous, son directeur général Thierry Robert.
Oui, tout à fait. Au Secours populaire, on entend permettre à ce que l'été n'oublie personne, mais également que tout au long de l'année, celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances puissent avoir quelques jours leur permettant aussi de sortir de leur environnement quotidien et de, comme tout à chacun, passer des temps de vacances en famille ou en colonie pour les enfants. Nous avons beaucoup de partenaires qui offrent des places en colonie ou des séjours que nous organisons en lien avec notamment le partenariat que nous avons avec l'Association nationale des chèques de vacances, qui permet donc à notre association, avec le soutien aussi de nombreux donateurs qui versent à nos appels, nous permettent de faire partir donc, des familles, des jeunes, des enfants, des seniors en vacances tout au long de l'été.
Combien d'enfants aujourd'hui en France sont contraints de rester chez eux faute de moyens financiers ?
On estime à un enfant sur trois qui ne part pas en vacances aujourd'hui. C'est quand même un nombre important. Et donc, c'est une vraie injustice.
Le directeur général du Secours populaire français, Thierry Robert. Fin de ce grand angle hebdo, une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de Radio Orient, radioorient.com, ainsi que sur les réseaux sociaux de votre radio. Très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient et un grand merci pour votre fidélité.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.